un humain en disciple. Jésus dit, un, vous le baptisez, et deux, vous l'enseignez à observer tout ce que j'ai commandé. Alors, qu'est-ce que Jésus a commandé ? Eh bien, vous le saurez en écoutant le prochain message, la semaine prochaine. Aujourd'hui, on parle du baptême, de cet ordre de Jésus. Pour faire un disciple, baptisez-les. Alors moi, je trouve ça très surprenant. Pas vous ? Non, à voir vos têtes, non, vous n'avez pas l'air d'être... Je suis le seul à penser ça. J'ai mes raisons. Nulle part dans les quatre évangiles, on lit les enseignements de Jésus sur le baptême. À aucun endroit, on ne voit Jésus parler du baptême. On voit Jean le baptiseur qui baptise et qui dit « Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Et c'est tout. À aucun moment, Jésus ne parle du baptême et explique pourquoi il dira à la fin de son ministère « Allez, baptisez-les. » Donc nous avons un sérieux problème de taille, Houston. Jésus nous dit de faire quelque chose, et ça fait 2000 ans qu'on le fait, mais Jésus n'a pas dit pourquoi il fallait le faire, ni à quoi ça sert, ni ce que cela procure. Alors je vous propose, vous vous en doutez, qu'on regarde ça de près ce matin. Et donc nous aurons trois parties, la première, la deuxième et la troisième, et on va commencer par la première. Alors de quoi s'agit-il le baptême ? On a gardé le mot grec « baptiser ». Et ce mot, il était employé dans la vie courante pour dire qu'on trempait quelque chose dans l'eau, on plongeait quelque chose dans l'eau, on l'immergeait. Baptiser, c'est prendre quelque chose ou quelqu'un, le mettre dans l'eau. Les lavandières, quand elles allaient laver le linge à la rivière, elles baptisaient leur linge pour le rincer. Donc c'était un mot de tous les jours. Concernant une personne, on ne va pas dire qu'il va faire trempette, on va plutôt dire qu'il va prendre un bain. Donc ce n'est pas un truc très extraordinaire, à l'époque de Jésus non plus. C'était un peu plus compliqué dans un pays sec et aride de trouver suffisamment d'eau pour plonger quelqu'un entièrement, mais c'était faisable. Ce n'est pas non plus très désagréable, et ça délasse. Prendre un bain, alors ce n'est pas ça, se faire baptiser. Par contre, se faire baptiser, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est prendre un bain, qui a une signification particulière. Un de nos grands pasteurs français, Robert Somerville, qui était venu plusieurs fois dans cette salle, nous enseignait à Nîmes, avait cette formule « Se faire baptiser, c'est se mouiller pour Christ ». C'est pas mal. Alors, avant de plonger dans la signification du problème, si vous me permettez l'expression, avant d'avancer en pleine eau, j'aimerais qu'on regarde rapidement ce qui s'est passé juste après ce que Jésus a dit, que nous avons lu, juste après Matthieu 28. Donc Matthieu 28, ça se passe quand ? Après la résurrection et au moment où Jésus va être séparé de ses disciples, ce qu'on appelle l'ascension. Et 10 jours après, il se passe quoi ? La Pentecôte, vous vous rappelez ? Le Saint-Esprit qui descend sur les 120 disciples de Jésus qui étaient rassemblés. Il y avait les langues de feu, le bruit, les gens qui accourent. On en a parlé ensemble il y a tout juste 3 mois. Et les gens sont stupéfaits. Et il demande, mais qu'est-ce qui se passe le jour de la Pentecôte ? Et c'est Pierre qui prend la parole, on lit ça dans Actes 2. Et il va expliquer à tous ces gens qui se sont attroupés, il va leur expliquer quoi ? Il va leur expliquer pourquoi il faut croire en Jésus. Et on a dans Actes 2 le premier message d'évangélisation après Jésus. Et vous vous rendez compte que Pierre, quand il fait ça, il est exactement en train de répondre à l'appel de Jésus que Jésus a donné 10 jours plus tôt. Il leur dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Et bien Pierre commence là où il est, avec ceux qui sont autour de lui. Et à la fin de son exposé, Pierre termine en disant « Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Et tous ceux qui étaient là à écouter Pierre sont profondément bouleversés et demandent « Que devons-nous faire ?» Et dans Actes 2, 38, Pierre leur répondit « Faites demi-tour et que chacun soit baptisé au nom de Jésus le Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. » Alors je dois dire que moi aussi je suis assez stupéfait de ce que nous venons de lire. Jésus n'a jamais enseigné sur le baptême, mais on constate que la première chose que Pierre demande aux nouveaux croyants, c'est de se tourner vers Jésus, puis de se faire baptiser. Le baptême avait donc, 10 jours après que Jésus soit monté au ciel, une importance très grande pour les apôtres. Et même si aucune ligne n'en parle dans l'Évangile, on voit que les apôtres étaient déjà très préparés pour cela. Un deuxième point à relever, c'est qu'on a déjà pratiquement là toute la signification du baptême. Après s'être tourné vers Jésus et l'avoir reconnu comme Seigneur, comme Sauveur, on reçoit le baptême pour confirmer qu'on a reçu le pardon des péchés. On va développer ça un peu plus tard, mais c'est un point remarquable. Ce n'est pas tout. Et Pierre continue en disant là, c'est à partir de là que vous allez recevoir le Saint-Esprit, la promesse de la présence éternelle de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit qui fait jaillir dans notre vie la puissance de libération du péché, celui qui apporte la qualité de Dieu dans notre vie. Acte 2, 41, juste après, continue en déclarant « Ceux qui acceptèrent la parole ce jour-là furent baptisés et le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. » Waouh ! 3000 baptêmes le jour de la Pentecôte. Je ne sais pas comment ils ont fait. À Jérusalem, alors je ne sais pas s'ils sont descendus au réservoir de Siloé ou à la piscine de Bethesda. Quand vous irez à Jérusalem, là, au mois de novembre, vous regarderez ça, vous ferez votre petite enquête, vous me direz. Mais 3000 baptêmes, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça a dû les occuper un sacré bout de temps. J'ai fait un calcul rapide. Si on compte une minute par baptisé, c'est à la chaîne, hein ? Ça fait 3000 minutes. 3000 minutes, ça fait, je divise par 60, 50 heures. 50 heures, vous vous rendez compte ? 50 heures de baptême. Alors à mon avis, comme il y avait les 11 disciples, les 11 apôtres, ils se sont mis en parallèle. Ils en faisaient 11 d'un coup, donc on gagne, on divise par 10 ou par 11, ça fait plus que 5 heures de baptême. 5 heures de baptême, vous vous rendez compte? Bon, alors ça, ce n'est pas très très important. Ce qui est plus important, c'est de voir que, 1, les apôtres étaient préparés à baptiser les futurs croyants, même si on ne lit rien sur ce sujet dans l'Évangile. Pierre indique en 3 étapes. Il faut d'abord se tourner vers Jésus, recevoir le baptême pour le pardon des péchés et puis recevoir le Saint-Esprit. Et la troisième chose qu'on apprend dans ce récit, c'est qu'une fois qu'ils étaient baptisés, il est dit qu'ils étaient ajoutés à l'Église. Alors dans les actes, on parle encore de situation de baptême et on va les regarder rapidement car là encore, c'est très parlant. On va dans acte 8. C'est maintenant un autre apôtre de Jésus, Philippe. C'est plus Pierre, c'est Philippe. Et lui, Philippe, il va dans une région que les Juifs n'aimaient pas trop, la Samarie. Tiens, on s'éloigne de Jérusalem. On est passé dans la région d'à côté. Vous vous rappelez, la Samarie, c'était cette région entre la Judée et la Galilée, et les Juifs n'aimaient pas passer par là. Parce que pour eux, les Samaritains, c'était des gens pas du tout recommandables. Des ploucs, des gens de la campagne, un peu dégénéré, qui avait une sous-forme de religion. Bref, la Samarie, ce n'était vraiment pas là qu'il fallait vivre. Pour les Juifs, les Samaritains, ça représentait quoi ? Ça représentait les marginaux, les gens qu'on déteste. Mais ceux qu'on déteste de génération en génération, vous savez, ceux que tout le monde critique et qu'on aime critiquer, dont on se moque. Quand on croise un Samaritain dans la rue, on change de trottoir. Ces gens-là, ils représentent les mal-aimés de notre société, ceux qui subissent notre racisme ordinaire, le racisme admis, toléré. Mais Philippe, l'apôtre de Jésus, lui, il y va. Et il parle de Jésus. Et les gens se tournent vers Jésus, même les Samaritains. Rien d'étonnant, car Jésus l'a commandé, aller vers toutes les nations, même vers les ploucs de Samarie. Alors dans acte 8, on n'a pas le temps de le lire, hein, vous le relirez cet après-midi ou ce soir à la veillée. Acte 8, 12, il y a un verset très important. Il est dit « Quand ils eurent cru à ce que disait Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. » À la Pentecôte, à Jérusalem, c'est que des hommes. Les femmes, on ne sait pas où elles sont. C'est que des hommes qui sont venus voir les disciples et qui se sont fait baptiser. Là, chez les Samaritains, les délaissés, ceux dont on se moque, il se passe quelque chose qui va ouvrir une porte pour toute l'humanité. Ici, Philippe baptise les hommes et les femmes. C'est un grand pas. Et puis, il y a cette question du Saint-Esprit. Donc, toujours chez les Samaritains, Actes 8, 14, 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas descendus encore sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Là encore, chez les Samaritains, les ploucs, il se passe quelque chose d'universel qui va ouvrir la porte à toute l'humanité. Parce que le Saint-Esprit descende sur les Juifs, le peuple élu, c'est dans l'ordre des choses. Mais que le Saint-Esprit soit donné à des ploucs, ça, c'était inédit. Et on se rend compte que la promesse est pour eux aussi. Alors, toujours dans Actes 8, on voit maintenant notre ami Philippe qui va faire une autre rencontre. Il nous est parlé d'un eunuque éthiopien qui était le ministre des finances de la reine du pays d'Éthiopie. C'est lui qui gardait le trésor, on nous dit, ministre des finances. Un éthiopien, c'est quoi un éthiopien ? Excusez-moi, je vais peut-être vous choquer, mais c'est un black. Premier ministre, ou je ne sais pas quel titre, homme d'État. Vous connaissez le nom de notre ministre des Finances ? Voilà, c'était cet homme, ministre des Finances du roi d'Éthiopie. Et il était aussi prosélyte juif, intéressé par la religion juive. Et donc Philippe et cet homme ont un entretien d'ordre théologique et spirituel. Vous connaissez l'histoire, hein, on n'a pas le temps de la lire, sinon, là encore, vous la relirez ce soir à la veillée. Et cet homme d'État se tourne vers Jésus dans la discussion. Et dans Actes 8, 35, on lit « Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Alors, ce que je trouve dingue dans cette histoire, c'est que l'Éthiopien a compris qu'il fallait qu'il se fasse baptiser. Mais comment il a fait pour comprendre ça ? Mais il n'y a qu'une réponse possible, c'est que ça faisait partie de ce que Philippe lui a annoncé. Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Tu peux te faire baptiser. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Cet apôtre Philippe nous est vraiment donné en exemple. Regardez comment il se comporte. Il est capable d'annoncer l'Évangile et de conduire à Jésus aussi bien les déshérités, les délaissés, et aussi bien un homme d'État influent, un ministre, un haut fonctionnaire. Alors ne pensez pas que ça lui arrivait comme ça en claquant les doigts. À mon avis, c'est un travail de préparation que Philippe avait fait. Un travail immense qu'il faut aussi envisager à notre tour. Être prêt à témoigner autour de nous à quiconque, ça va nous demander du travail. Ne pense pas que ça va nous arriver comme ça, en claquant les doigts. Que ce soit quelqu'un de nos proches, de nos semblables, ou alors quelqu'un qu'on n'aime pas, ou alors un de ceux qui sont influents, alors préparons-nous dans la prière. Soyons prêts à annoncer Jésus et à se faire tourner vers Christ, ceux de notre entourage. Alors, si on regarde le livre des Actes, là où on est arrivé, donc on a vu qu'on avait baptisé 3000 Juifs à Jérusalem, puis grosso modo un village de Samaritains, et puis un Éthiopien, black et prosélyte. Et maintenant, on va continuer et on arrive dans Actes 10. Et là, on retrouve Pierre. Et vous connaissez l'histoire, c'est avec Corneille. Alors, qui c'est ce Corneille ? Corneille, c'est un Romain. Et c'est quoi un Romain pour un Juif de cette époque ? C'est un envahisseur, un occupant, mais c'est surtout un païen répugnant qui a des pratiques religieuses impensables pour un Juif. À tel point que les Juifs n'allaient pas manger chez les païens. Ils ne rencontraient pas les païens. Alors, Corneille, ce n'est pas n'importe qui. C'est un centurion, donc c'est un militaire, donc il représente la force qui occupe le pays, la force de l'oppresseur. Et en plus, il nous est dit que c'est un centurion de la garde de Césarée. Césarée, c'est une ville au bord de la mer, et c'est là où il y avait le palais royal du gouverneur, directement nommé par Rome. Alors là encore, on n'a pas le temps de dire toute l'histoire. Mais cet homme païen, ce centurion, il était intéressé par la religion juive, il est dit qu'il craignait Dieu. Et Dieu va se faire connaître à lui. Corneille fait appel à Pierre et l'invite chez lui. Vous lirez, c'est passionnant. On voit comment Dieu a vraiment du mal à faire en sorte que Pierre aille chez cet homme. Pierre, il dit non, ça ne va pas. Ça ne va pas la tête. Tu veux m'envoyer chez ce païen ? Ça ne va pas, mais tu ne sais pas qui je suis. Moi, je suis Pierre, je suis un juif pur. Dieu s'y reprend à 3 fois. Et il lui faut 3 fois pour convaincre Pierre d'y aller. Et quelques jours plus tard, car bon, les trajets se faisaient à pied à cette époque, ça prenait du temps, Pierre arrive chez Corneille et il parle de Jésus à tous ceux qui habitaient dans la maison de Corneille, hommes, femmes, enfants, esclaves, serviteurs, domestiques, etc. Même peut-être les voisins qui étaient venus. Là, il se passe quelque chose d'inattendu. Pendant que Pierre explique le salut en Jésus-Christ, pendant ce temps-là, il est dit que le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sur tous ceux qui écoutaient. Et tous ceux qui sont là avec Pierre disent « Mais qu'est-ce qui se passe ? Ces gens-là qui sont des sales païens, ils reçoivent le Saint-Esprit exactement comme nous, les bons juifs, il y a quelques jours à la Pentecôte. Vous vous rendez compte ? » Et Pierre déclare « Puisque le Saint-Esprit leur a été donné comme à nous, il faut qu'ils soient baptisés. » Pierre a compris ce qui s'était passé. Et vous, vous avez compris ? Pierre a remonté le fil, il a réfléchi. Il s'est dit, bon, ils ont reçu le Saint-Esprit. S'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est que l'étape d'avant, c'est qu'ils se sont tournés vers Jésus et qu'ils ont accepté le pardon de leurs péchés en Jésus. Donc Pierre a fait le cheminement à l'envers. Et il dit, ben, puisqu'ils en sont à ce point-là, il faut qu'ils soient baptisés. Et oui, on pourrait dire, ben, ça y est, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'ont même plus besoin du baptême. Mais si, il faut obéir à l'ordre de Jésus. Toute personne qui se tourne vers Jésus doit être baptisée pour être ajouté à l'Église. Vous voyez, avec ces 4 récits de baptême dans les Actes, nous comprenons que Jésus avait préparé ses apôtres à baptiser ceux qui croiraient en son nom. Et nous avons déjà compris que le baptême regroupe un certain nombre de significations. C'est la porte d'entrée pour être compté parmi les disciples, dans l'Église de Jésus. Il ne suffit pas de croire en Jésus, de se tourner vers lui, de recevoir le pardon des péchés. Non, il faut aussi recevoir le baptême. Ça fait partie de l'annonce de l'Évangile. La deuxième chose, c'est que c'est une action concrète qu'on reçoit. C'est une étape d'obéissance à l'ordre de Jésus. Troisième chose qu'on apprend dans ces récits, c'est qu'au travers de cela, on reçoit le Saint-Esprit, la présence de Dieu dans notre vie. Alors on a vu qu'il n'y a pas de théorie très précise là-dessus. Des fois, il vient avant, comme chez Corneille. Des fois, il vient après, comme chez les Samaritains. Des fois, il vient en même temps. Hein, là, on est maître de rien. Alors, c'est un sujet passionnant, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, ce sera pour une autre fois. Et puis, un autre point qu'on a compris, c'est que le baptême concerne tous ceux qui croient sans discrimination. Les gens bien comme les juifs, les ploucs comme les samaritains, les étrangers qui ont des responsabilités comme le ministre des Finances éthiopien, et même les envahisseurs comme le romain. Ça concerne les hommes et les femmes. Et chez Corneille, il est dit qu'on a baptisé toute la maison. Donc on a baptisé aussi les enfants, parce que les enfants avaient cru et ils avaient reçu le Saint-Esprit. Certainement aussi les esclaves, les domestiques. Dernier point, il y a un ordre, un sens dans les étapes. D'abord, c'est croire, et ensuite, c'est être baptisé. Ça va, vous tenez le coup ? Tout cela, ça pose quand même pas mal de questions. L'ordre croire, être baptisé. Et alors tous ceux qui ont baptisé quand ils ne croyaient pas encore, par exemple parce qu'ils étaient nourrissons en bas âge et qu'ils n'avaient pas encore... Et tous ceux qui croient, mais qui ne veulent pas se faire baptiser parce qu'ils pensent que ce n'est pas utile. Et ceux qui pensent qu'on devient disciple de Jésus juste en naissant de nouveau et en se convertissant et que ça suffit. Et là, notre Bible nous dit que non, c'est en se faisant baptiser. C'est par le baptême qu'on devient disciple de Jésus et qu'on est ajouté à l'Église. Alors que penser aussi d'un enfant qui grandit dans l'Église, qui en fait partie depuis qu'il est né? Tout ça, ça fait beaucoup de questions, n'est-ce pas? Alors on va tenter d'y répondre. Commençons par ceux qui ont été baptisés alors qu'ils ne croyaient pas encore. Voilà. Quelqu'un a pris la décision pour eux, par exemple quand ils étaient nourrissons, de les faire baptiser. Et puis un jour, cette personne grandit, et puis elle comprend le message de l'Évangile, elle se tourne vers Jésus. Et on lui dit « Non, tu ne peux pas être baptisé car tu l'as déjà été. » Et pour beaucoup, c'est une souffrance, parce qu'ils ont envie de répondre à l'appel de Jésus, et on les en empêche. Là, la question de l'Éthiopien garde tout son sens. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé maintenant, que je crois? Même question, même réponse. Rien. Ce que tu as reçu quand tu étais nourrisson, l'éducation que tu as reçue, les soins que tu as reçus, ça t'a orienté vers Dieu, ça t'a aidé à croire et à te tourner vers Jésus. Et maintenant que tu te crois de toi-même, reçois le baptême du Christ. Parlons aussi des enfants qui ont grandi dans l'Église et puis qui un jour, à 7 ans, 9 ans, 10 ans, 13 ans, disent « Ah, j'aimerais bien être baptisé !» Et puis on leur dit « Ah, c'est super que tu veuilles te faire baptiser !» Mais tu devrais attendre un petit peu, hein. Te faire baptiser dans quelques années, qu'on n'est pas trop sûr. Et le gamin, il comprend bien ce qu'on lui dit. Mon petit gars, je ne te prends pas au sérieux. Reviens plus tard quand tu auras du poil au menton. Et là, je pourrais te faire confiance. Sauf que le petit gars, il a été déçu, il a été meurtri, et il se peut qu'il ne revienne pas. On ne lui a pas fait confiance. Alors je voulais vous dire ce matin, si vous avez été comme ce petit gars dans mon histoire, qu'on ne vous a pas fait confiance quand vous aviez 9 ans, 13 ans, vous vouliez vous faire baptiser, accordez votre pardon aux personnes qui vous ont meurtri et recevez ce matin la consolation de la part de Dieu. Dieu a vu que vous étiez sincère et que vous vouliez vous engager avec lui dès votre plus jeune âge. Lui, il s'en souvient. Alors sans transition, nous allons maintenant passer à la deuxième partie. Comment ? C'est que la deuxième partie. Nous avons le baptême avec Jésus et les premiers apôtres. Maintenant, il faut regarder ce que dit Paul, l'apôtre Paul, sur le baptême. Il en parle très précisément dans plusieurs épîtres, dans Romains, dans Colossiens. On va aller dans Romains car on n'a pas le temps de tout regarder. Avant ça, je voudrais attirer votre attention sur un élément particulier, une évidence. C'est que le baptême, comme la Sainte Cène, ça implique notre corps dans la vie spirituelle. Notre corps est souvent déconsidéré dans notre foi et même dans notre vie. On considère qu'il n'intervient pas. On prie avec notre esprit, notre âme. Le corps, c'est qu'une enveloppe qui nous sert, un serviteur, des fois qui nous dessert, surtout quand on est malade et qu'on souffre. Mais ça, ce n'est pas la conception divine de notre corps. Notre corps, c'est nous. Si on souffre, Dieu veut nous aider. Si on est malade, Dieu veut nous guérir. Jésus ne l'a-t-il pas démontré par tant de miracles, les signes, les guérisons qu'il a produits? Et si la guérison tarde et n'est pas là, Dieu nous donne une force intérieure de l'ordre de la persévérance et renouvelle notre foi et notre joie. Alors dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament décrivent l'homme, l'être humain, comme une réalité matérielle, le corps, et une réalité intérieure. Alors cette réalité intérieure, on l'appelle le cœur, on l'appelle l'âme, on l'appelle l'esprit. Parfois, on a tendance même à essayer de découper la réalité intérieure en deux. Il y a l'âme d'un côté, l'esprit de l'autre, mais c'est quand même très interconnecté. Et nous, Français en 2017, nous sommes baignés dans la philosophie grecque qui indique que le corps est mauvais et que c'est l'être intérieur qui est bon. Et puis on retrouve aussi, parce qu'on est très très influencé aussi par les spiritualités orientales du bouddhisme. On considère que c'est la réalité intérieure qui est importante. Et la réalité extérieure, notre corps, c'est vraiment secondaire. Et je redis, c'est une conception qui n'est pas biblique, c'est une conception des philosophes grecs et du bouddhisme. Ce n'est pas la conception de la Bible, du Dieu créateur et de Jésus-Christ. Dans la Bible, la réalité intérieure et la réalité extérieure de l'humain sont aussi importantes l'une que l'autre. Il ne s'agit pas de les séparer. Dieu aime notre corporalité autant que notre intériorité. Et ces deux réalités dans notre vie sont interconnectées, entremêlées, indissociables. Les séparer, c'est la mort. Alors je vais vous refaire le cours de maternelle. Les cinq sens, vous vous rappelez ? L'ouïe, j'entends. La vue, je vois. Je sens, je touche, je goûte. Tout ce que nous le vivons au travers de notre corps. Nous le percevons au travers de notre corps. Même Jésus et la foi nous arrivent par les oreilles. La foi vient de ce qu'on entend. Elle ne se produit pas comme ça d'une manière spontanée. Notre vie, elle vient de ce qu'on entend. Ça rentre par notre corps. Nos deux réalités sont reliées et indissociables. Si je me pince, je pince mon corps. Mais j'ai mal intérieurement. Tout est imbriqué. Dieu aime notre corporalité et nous a créés ainsi pour notre bien. La meilleure preuve, ça nous a été rappelé ce matin par la parole prophétique, c'est que Dieu s'est fait homme. Il s'est fait chair et os comme nous. Vous voyez à quel point Dieu apprécie le corps. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que le baptême, ça concerne notre corps qui est plongé dans l'eau. Et on va dire notre peau, elle s'en souvient. Cela concerne à la fois notre réalité extérieure, notre corps, que notre réalité intérieure. Saint Augustin exprimait cela en disant que c'est le signe visible d'une grâce invisible. Dans le baptême, notre corps reçoit un bain qui représente la réalité intérieure du sens du baptême. Nous sommes lavés de nos péchés par le baptême. La croix de Jésus a libéré toute l'humanité. Mais c'est pendant mon baptême que je suis lavé de mes péchés. La Sainte Cène est quelque chose de semblable. Jésus nous ordonne de prendre des aliments pour notre corps. On les ingère, on les avale, on les digère. Du pain et du vin. Des féculents et de l'alcool. Et ces aliments représentent le signe visible de l'aliment spirituel qu'est Jésus pour notre foi. Ils nous procurent la force comme les féculents, et la joie, comme l'alcool. L'eau, le baptême, est donc le signe de notre lavement du péché. Et le pain et le vin, lors de la Sainte Cène, les signes que Jésus nous nourrit, nous entretient, prend soin de nous pour nous faire grandir. Alors je reviens sur le corps. Dans notre société, le corps est souvent mal considéré, et il y a deux fausses routes. Soit on le méprise, on se trouve trop laid, trop gros, trop petit, trop ceci, trop cela. On ressemble à la tante Hortense, on, je ne sais pas qui. Et ça nous déplaît. Hein, et on méprise notre corps au lieu d'en prendre soin. Et la seconde fausse route, c'est que le corps est mis sur un piédestal. En quelque sorte, on l'idolâtre. On veut que le corps soit parfait. On voit ça au cinéma. Les acteurs sont rarement moches. Et vous avez remarqué que les femmes ne cherchent pas la même perfection que les hommes. Hein ? Ce n'est pas tout à fait les mêmes chemins. Vous comprenez les deux écueils ? Soit on méprise ce que Dieu a créé, notre corps, soit on l'idolâtre. Je voudrais faire un appel ce matin. C'est de délaisser les fausses conceptions du monde sur notre corps et de venir à la conception de notre Créateur. Ton corps est créé par Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Tu peux et tu dois en prendre soin. Ton corps, c'est toi. Paul va jusqu'à dire, dans Corinthiens, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Notre corps est la demeure de l'Esprit dans notre vie et sur la terre. Prenons soin de notre corps. Prenons soin autant de notre réalité extérieure que de notre réalité intérieure, sans mépriser ni idolâtrer ni l'un ni l'autre. » Alors, tout à l'heure, à la fin du culte, ceux qui ont envie, compris pour eux, pour ce domaine, pourrait vous avancer. Alors passons à l'encouragement de Paul sur le baptême. Je vois que la pendule va beaucoup trop vite. Je sais pas si... On va lire rapidement Romains 6, 3. Je vais moins lire que prévu. Voilà ce que déclare Paul. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, dans sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Alors c'est un texte dense et qui contient beaucoup de sujets, mais je voudrais juste mettre en lumière quelques points. Donc pour Paul, comme pour les autres apôtres, le baptême représente que nous sommes lavés de nos péchés. Et Paul donne une explication qui est très intéressante. Quand on reçoit le baptême, on est incorporé à Christ qui meurt sur la croix. Et en quelque sorte, on meurt avec Jésus. Alors on dit souvent que Jésus est mort pour nous. C'est ce qu'on appelle l'expiation. Et c'est vrai. Et dans le baptême, nous proclamons par un acte concret ce qu'on appelle aussi l'identification. Jésus s'est identifié à nous, il est devenu comme nous, et il a subi à notre place en prenant sur lui nos péchés, lui qui n'avait pas péché. Et voilà qu'il se passe une sorte d'échange. On a échangé les places. Jésus meurt à notre place, mais par le baptême, c'est comme si je mourais en lui. Jésus meurt à ma place, et moi je meurs en lui. Jésus ressuscite, et je ressuscite aussi avec lui. C'est le second signe de l'eau. Le premier, on l'a vu, c'est le bain pour se laver du péché. Mais le second, c'est aussi la mort, parce que les êtres vivants ne vivent pas dans l'eau. Et quand le baptisé rentre dans l'eau, c'est comme s'il entre dans la mort en Jésus. Et la renaissance, la résurrection, c'est quand le baptisé sort de l'eau, de même que Jésus est sorti du tombeau. Paul donne beaucoup d'importance au baptême. C'est un acte concret qui concrétise l'action de Jésus de notre vie. Deuxième point, Paul parle du vieil homme. C'est une image pour représenter notre nature sans Dieu. Et il dit qu'elle est crucifiée avec Jésus. Et ce vieil homme, lui, il ne ressuscite pas. Il reste dans la mort définitivement. Ce qui ressuscite, Paul l'appelle dans un autre passage, l'homme nouveau. Dans un autre passage, Paul dit « Faites mourir le vieil homme ». Bon, alors il est mort ou il n'est pas mort ? Dans ce qu'on vient de lire, il nous dit qu'il est mort à travers du baptême en Jésus. Et après, dans un autre passage, il nous dit « Faites-le mourir hein, par l'Esprit ». Eh bien, c'est un petit peu les deux à la fois. Il est mort en Jésus et il doit aussi mourir en nous chaque jour. Alors, dans le parcours Espoir Plus, on met beaucoup l'accent sur la mort du vieil homme à la croix et la résurrection de l'homme nouveau. Et c'est là qu'on voit des belles choses, des libérations, des transformations. Un dernier point que Paul explique, et c'est peut-être le point le plus désagréable de l'Évangile, c'est que lorsque nous reconnaissons que Jésus est mort pour nous, nous reconnaissons que nous devions mourir. On reconnaît que le jugement de Dieu face au péché, il s'applique à nous. Et ce jugement, en quelque sorte, on se l'applique à nous-mêmes. Oui, je mérite la mort devant Dieu car j'ai péché, mais je reconnais que Jésus est mort à ma place. Alors, nous arrivons à la troisième partie, qui sera beaucoup plus courte. Et je voulais vous transmettre quelques réflexions d'un grand homme chrétien qui vivait il y a 5 siècles, il y a 500 ans. Alors, est-ce que vous avez deviné qui c'était ? Eh bien non, ce n'était pas Luther. Cette fois-ci, c'est Jean Calvin. On parle beaucoup de Luther et c'est bien. Et on parlera dans quelques années de Jean Calvin pour son 500e aussi. Alors, Jean Calvin, il a écrit des choses formidables sur le baptême. Et moi, je vous encourage à lire un de ses ouvrages principaux, qui est donc l'Institution de la religion chrétienne. Il y a une édition récente qui a été réimprimée en français moderne. C'est superbe et très édifiant. Achetez au plus vite dans votre librairie. Alors voici quelques éléments que Jean Calvin donne sur le baptême. Le baptême nous est donné par Dieu. Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin que nous fassions baptiser. C'est nous qui en avons besoin. Dieu nous l'a donné pour notre bien. Jean va dire, il sert à notre foi et il sert à notre confession devant les hommes. Alors, à quoi ça sert pour notre foi ? Le baptême apporte trois choses principales à notre foi. Il sert de signe pour notre purification du péché. Dieu veut que notre baptême soit un point de repère dans notre vie. Ça s'est passé tel jour, à telle heure, avec telle personne. Moi, c'était le 26 avril 1986. Je sais, vous n'étiez pas tous nés encore à cette époque-là. Le baptême sert à nous rappeler, dans les moments difficiles ou dans les moments de doute, que nous avons proclamé la foi en Jésus. Deuxième point, le baptême nous rappelle qu'il n'y a que le sang de Jésus qui nous sauve. En aucun cas nos propres actions, avant notre baptême, et encore moins après notre baptême, ne peuvent nous sauver. Devenir un bon chrétien ne te sauvera pas. Jean Calvin écrit, « Le baptême ne nous promet aucune autre purification que celle de l'aspersion du sang de Christ, lequel est représenté par l'eau à cause de la similitude que le sang de Christ a de laver et de nettoyer. » Troisième point, le baptême nous assure la rémission des péchés, passés et futurs. Quand on devient chrétien, on comprend bien que nos péchés d'avant sont effacés. Et on a souvent du mal à comprendre que nos péchés d'après sont aussi effacés. Le jour de ton baptême, tu as été définitivement lavé de ton péché, passé, présent et futur. Le baptême sert à notre confession devant les hommes. Et là encore, c'est à double sens. On pourrait dire notre prise de position. Nous nous déclarons pour Christ. Se mouiller pour Christ, comme je disais au début. Celui qui veut recevoir le baptême déclare publiquement qu'il veut être compté dans le peuple de Dieu, qu'il fait partie de l'humanité rachetée et qu'il s'engage à servir Dieu, à suivre Jésus tout au long de sa vie.